Rendez-vous.
Rendez-vous.
La chronique.
Mathieu Sapin et Igor Gran, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite la chronique du jeudi, donc la chronique hebdomadaire de Xavier Delaporte, Place de la Toile, en partenariat avec Rue 89, dont vous êtes le rédacteur en chef. Aujourd'hui au programme, un concept que vous ne maîtrisez pas vraiment, j'en suis sûr que...
Oui, non, c'est vrai, je ne le maîtrise pas, mais je vais y arriver par la suite. D'abord, les hommes et les femmes politiques sont décidément une espèce étrange, victime de syndromes étranges. Alors prenons l'exemple de leur rapport au numérique. On peut faire l'exercice de rassembler dans le désordre quelques événements de ces dernières semaines. Aujourd'hui même, les mêmes qui ont voté les yeux fermés mardi dernier, ou simplement soutenu quand ils n'étaient pas députés, la loi sur le renseignement, qui ont donc approuvé un texte qui établit une surveillance massive des communications des Français, avec des technologies ultra-intrusives, maintes et maintes fois dénoncées par ceux qui y connaissent un peu quelque chose.
Et vous-même,
les mêmes,
il y a
donc,
quelques semaines.
Ouais, j'ai beau rien y connaître, j'ai dénoncé. Les mêmes donc, qui ne voient pas le problème là-dedans, trouvent pas du tout normal que les juges aient considéré comme légale la mise sur écoute des téléphones de l'ancien président Nicolas Sarkozy et de son avocat, comme nous l'a rappelé tout à l'heure Sarah Potibon. Pas très cohérent. Mais les Français ne sont pas les seuls à ne pas être cohérents. Regardez Angela Merkel. Toute la classe politique allemande et elle-même s'est émue quand on a appris que la NSA américaine avait mis sur écoute son téléphone portable personnel. En revanche, qui s'est ému que les services secrets allemands aient écouté les communications de hauts responsables politiques français? Pas tellement Angela Merkel. Et même aux États-Unis, la Maison-Blanche a défendu le système mis en place par la NSA pour surveiller les communications de ses concitoyens et des citoyens du monde entier. Mais a trouvé follement scandaleux le piratage, par des hackers russes sans doute, de boîtes mail de correspondants réguliers du président Obama, ce qui a permis à ces mêmes hackers russes, donc sans doute, d'avoir accès à des mails privés reçus et envoyés par le président des États-Unis où étaient échangées des informations non classées, parce que pour ça il utilise quand même des canaux un peu plus sécurisés, mais tout de même très sensibles. Pour définir cette attitude éminemment étrange, on pourrait donc employer l'expression dissonance cognitive. Alors je sais que scientifiquement, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas très sûr. La dissonance cognitive, c'est un phénomène un peu plus complexe. Mais disons, considérons-la ici comme l'incapacité de relier deux connaissances contradictoires. Incapacité à considérer qu'il y a contradiction entre ces deux réalités admises. Alors on pourrait rire de ça, et d'ailleurs on le fait tout le temps. Mais en fait, c'est assez troublant. D'abord parce que ça rend évidente une grande méconnaissance des questions numériques. Une déconnexion, si j'ose dire, entre une vision très abstraite et lointaine du numérique, à partir desquelles ils statuent politiquement, et des usages qui sont aussi les leurs. Comme si, au moment de prendre des décisions politiques, ils oubliaient leurs propres usages. On pourrait y voir une merveilleuse aptitude à s'élever jusqu'à l'universel abstrait. Ouais, moi j'y vois plutôt une inaptitude à la réflexivité qui est inquiétante, ou alors, ce qui est tout aussi inquiétant, une extraordinaire naïveté consistant à considérer que eux et elles seront par miracle exemptés de ce qu'ils imposent aux autres. Mais c'est troublant aussi parce que ça nous renvoie à nos propres limites. Par exemple, combien sommes-nous à nous élever contre ces systèmes de surveillance massive, je suis premier, qui naissent tous les jours par le monde? Et pas seulement dans les dictatures, par exemple hier le Canada a fait passer une loi alors proprement hallucinante, à nous effrayer de cela et à passer nos journées à échanger sur Google, à s'envoyer des mails, à chatter, à stocker des photos, des liens, des documents, etc. Alors bien sûr, Google, c'est pas un état. Google ne peut pas nous accuser de terrorisme, nous mettre en garde à vue, Google n'a pas de pouvoir coercitif. Et il ne faut surtout pas prendre pour argent comptant l'argumentaire du ministre de la Défense Bernard Cazeneuve quand il a dit en substance « Mais pourquoi vous craignez notre loi alors que vous passez votre temps à tout donner à Google et Facebook ?» Non, Facebook n'a pas ouvert Guantanamo ou envoyé des drones pour abattre des gens dont les comportements obéissaient vaguement au modèle du terroriste en puissance. Mais ce n'est pas cette certitude qui nous rassure et qui nous fait faire ça tous les jours. C'est juste que nous sommes les miroirs de nos hommes et femmes politiques, une autre espèce étrange qui aimerait qu'on la protège de ses propres faiblesses.
Des réactions, est-ce que vous venez d'entendre, Mathieu Sapin,
Igor
Gran, oui, Mathieu Sapin.
Oui, bah bien sûr. Moi j'ai passé mon temps à imaginer, et presque, il y a une part de moi qui est un peu romantique, à me dire que j'étais sur écoute. C'est assez excitant.
Ouais, bah, pendant toute cette année à l'Élysée, je pense que peut-être.
Voilà.
Bien sûr, même.
D'ailleurs, nous sommes sur écoute.
Et... bah, ici, je vous confirme, en tout cas, j'espère.
Et, sérieusement, moi, partant de là, donc, voilà, je me dis, de toute façon, je suis sur écoute, donc, voilà, tout ce que je dis pourra être retenu contre moi, donc, allons-y, quoi.
Vous en avez cherché la preuve? Vous étiez sur écoute pendant cette année au
château? Je testais des fois un petit peu. Justement, tout à l'heure, on parlait de Gérard Depardieu, là, du documentaire réalisé par Monsieur Bergogneau, Stéphane. Et donc, comme ils n'étaient pas au courant de cette histoire de documentaire, je me dis peut-être que ça va me créer des problèmes, parce que Gérard Depardieu n'est pas le premier soutien de François Hollande. Donc, il y a des moments où je sentais comme une espèce de froid, de distance de la part des équipes de communication de l'Élysée. Je me disais, ça se trouve, ils ont entendu des coups de fil que j'ai passés à Gérard Depardieu, ou je ne sais pas quoi.
Igor Gran, commentaire sur cette chronique.
Alors, ouais. Moi, j'ai un brin de nostalgie. Je pense à cette époque où on écoutait les gens sans le dire ouvertement, et je trouve ça plutôt preuve d'une. Là, je trouve pour le coup que c'est une preuve d'une certaine incompétence globale de dire comme ça. On va vous écouter. Non, il faut le faire.
En douce,
oui. D'une manière illégale, en ne laissant pas de traces écrites. Voilà, je crois que c'est le béaba